suis vraiment pas fan de toutes ces prothèses mécaniques là. Tu connais, je suis pour le 100% naturel. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, moi qui galère à grimper les escaliers, bah je serais pas contre de nouvelles jambes.
Ah tiens, tu commencerais par les jambes. Moi qui étais persuadé que t'aurais démarré par un truc genre le cyberfoie, histoire, je sais pas, de pouvoir augmenter les doses d'alcool sans risquer un cancer dans les 6 mois à venir.
Attends ça. Un cyberfoie ? Ça existe ça ?
Ben oui, tiens, regarde cette brochure. Page 32.
Attends, page 32 ? Mais c'est super important le cyberfoie, ça devrait être en couverture, en première page, tête de gondole et tout.
Ben c'est plus ou moins le cas en fait, mais les 31 premières pages c'est des putes de cul. Enfin, je dis de cul mais je peux te garantir que tu verras pas une seule miche, hein. Mais uniquement les dildos les plus phalliques que tu puisses imaginer. Pff.
Ouais, ben logique hein, y'a que tu es équipé d'un pénis qui peut fournir du plaisir. Eh, le zizi ça fait zizir.
Oh là 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 là. Alors en principe, je t'aurais répondu un truc du genre ouais, c'est le discours des types qui ne fournissent de plaisir à personne, ça, blablabla. Mais comme je sais que t'as des boules de geisha top qualité dans ton chevet, je sais qu'au fond tu ne le penses pas.
N'importe quoi. Où tu vas chercher ça ?
Eh ben, je vais le chercher dans le deuxième tiroir de ton chevet, hein, celui du bas, hein, sous le faux fond dissimulé par quelques magazines type Dorcel et Entrevue.
Je t'interdis de fouiller dans mes tiroirs. Bordel.
Ben laisse-moi te dire mon gars que c'est trop tard, hein, parce que pour ce qui est de fouiller c'est fait. Et non seulement c'est fait, mais en plus je dois te remercier parce que ça m'a bien dépanné.
Me dis pas que t'as fait ça.
Bah c'est-à-dire que bon, voilà, des boules de geisha j'en avais, mais c'était du bon marché et je pouvais pas ne pas essayer les tiennes. Et putain c'est vrai qu'elles sont, comment on dit, waouh.
Oh là 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 là, c'est pas de prothèse dont j'ai besoin, c'est une thérapie, une hypnose. Hein, pour effacer tout ce que je viens d'entendre. Et à la limite, les boules de geisha, vas-y, prends-les. Je ne veux plus jamais entendre parler, je ne veux plus jamais les utiliser. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast
Chambara.
Qui sera, comme vous l'aurez deviné, consacré à un animé assez robotique. Qui s'appelle Edge Runner, ou plutôt Cyberpunk 2077 Edge Runner. C'est une série animée donc, en 10 épisodes par les studios Trigger, réalisée donc, par le fameux Imaishi, qui est cher au cœur de gens ici présents.
Kiru da Kiru.
Entre autres, et écrite par, entre autres, Bartosz Stibor, excusez pour la mauvaise prononciation si c'est le cas. Et qui est un scénariste attitré par CD Projekt Red. Et la série a été diffusée à partir du 13 septembre 2022 sur Netflix, sachant que tous les épisodes ont été diffusés d'un coup et mis à disposition
immédiatement.
Jean, est-ce que tu pourrais nous faire un pitch de cette série ?
Oui, alors le personnage principal s'appelle David. Il arrive un truc un peu sale dans sa famille. Comme ils ne sont pas riches, la Trauma Team n'est pas venue les aider. Donc c'est la Trauma Team étant une espèce de fusion sous forme de compagnie d'assurance entre le SWAT et des médecins.
Voilà.
Qui viennent en hélico te chercher quand t'as un problème si tu as payé pour une formule suffisamment haut de gamme.
Le SAMU Red.
Voilà. Et donc. Voilà, il se retrouve un petit peu dans la galère et il va faire la rencontre fortuite d'une prénommée Lucie qui va être son point d'entrée dans un groupe de ces fameux Edge Runners, donc qui sont des mercenaires dans cet univers cyberpunk.
Voilà, sachant qu'entre temps, il a mis la main sur une sorte d'implant qui lui donne des pouvoirs un peu particuliers.
Voilà, mystère. Voilà.
Donc merci Jean pour ce pitch. Comme d'habitude dans ce Chambara, on va commencer par ce qui va et ce qui nous a plu dans Cyberpunk Edge Runners. D'abord, ce qui m'a le plus marqué, c'est la direction artistique, hein, avec justement cette couleur jaune très prédominante, avec l'utilisation beaucoup de couleurs saturées, notamment lorsque va y avoir il va y avoir soit la mise en place de pouvoirs particuliers ou d'utilisation d'implants ou disons pour représenter des choses qui sont au-delà des capacités humaines notamment. Et puis, de manière générale, la ville de Night City resplendit. C'était déjà le cas dans le jeu vidéo dont est extrait le... dérivé la série, merci, je trouve mes mots. Mais c'est toujours le cas dans l'animé. On représente bien cette ville qui est tentaculaire, peut avoir les pires des égouts, les pires des endroits, les malfamés et des endroits absolument magnifiques. C'est vraiment très bien représenté. Toujours dans la partie artistique, j'ai vraiment beaucoup aimé l'opening de Franz Ferdinand. Donc sur le morceau This Fire, c'est vraiment d'une grande fraîcheur vu que c'est pas souvent ce type de titre qu'on va entendre notamment pour des animés japonais.
Oui, cet homme dit vrai.
Et je trouve que ça correspond bien notamment par rapport au générique qui représente vraiment quelqu'un qui s'enflamme de façon littérale. Et qui correspond bien au texte du morceau et qui correspond bien aussi finalement à l'intrigue principale de ce Edge Runner. Je parlais de représentation de pouvoir. Effectivement, la représentation d'un pouvoir particulier, celui du Sir Davis Tan, celui qui est donc l'implant qui a été récupéré par David. Et en fait, sa représentation, en gros, le pouvoir est de pouvoir avancer très vite. Et plutôt que de le faire avancer très vite, il y a une représentation en fait en animatique. C'est assez marrant à observer vu qu'il y a comme si il y avait tout un découpage des mouvements du personnage, mais qui sont mis les uns à côté des autres pour bien représenter le fait que le personnage va plus vite. Je trouve que c'est vraiment très bien trouvé et très bien représenté dans l'animé. Je vais pas aller plus loin en termes de ce qui va bien.
Oui, parce que ça fait déjà 10 minutes que tu parles tout seul.
Oui, bien sûr. Et ça se voit que tu apprends à lire l'écran, vu qu'il n'y a pas écrit 10 minutes sur l'écran. Mais c'est pas grave. Vas-y, Jean, dis-nous ce qui t'a plu.
Vous avez entendu parler du concept d'exagération ?
Oui, Marseillais, ouais. Oui, monsieur le Marseillais. Allez-y.
Oui, très bien. Merci de me passer le micro, peu cher. Moi, j'ai bien aimé l'univers en général, en fait. C'est vrai que c'était déjà le cas dans le jeu dont dérive la série, donc Cyberpunk 2077. C'est aussi vrai en général, assez globalement quand même, pour les œuvres de Cyberpunk qui n'ont pas beaucoup d'efforts à faire en principe pour m'intéresser au minimum, voire me plonger dans leur fiction. Je me suis pas mal attaché aussi à certains personnages. C'est essentiellement le personnage de Lucy. Que j'ai trouvé intéressant, même si on a quelques bémols à exprimer là-dessus, qu'on verra ça un petit peu plus tard.
Oui, disons que ça reste les goûts et les couleurs. Mais...
J'essaie quoi aussi, on a un petit désaccord là-dessus, c'est sur la partie VF.
Ouais.
Moi, j'ai apprécié en fait ce timbre de voix qui allait bien avec le personnage, selon moi, évidemment.
Oui, c'est donc l'actrice Dorothée Pousseau qui double le personnage de Lucy. Dorothée Pousseau qui est pour le coup une personne très confirmée dans le monde du doublage mon bémol il sera pas vraiment sur sa maîtrise technique parce qu'elle a vraiment strictement rien à prouver au niveau de sa maîtrise, c'est plus sur le choix vocal. Je trouvais la voix peut-être un petit peu trop cassée, un petit peu trop rude par rapport à ce que dégageait le personnage. Mais ça, vraiment, c'est...
Les goûts et les couleurs.
Ouais, voilà, c'est les goûts et les couleurs. J'ai beaucoup plus apprécié les voix, notamment de Lila Lacombe sur le personnage de Rebecca, ou tout simplement, si je dis pas de bêtises, c'est Alexis Thomasian sur le personnage de David, qui font du très bon travail.
Ouais. Après, je suis assez d'accord avec toi pour tout ce qui est la partie visuelle. Mais vu que tu as parlé un petit peu de musique et que tu nous as parlé de l'opening, moi, je vais parler de l'ending.
Yes.
Déjà, en termes de mélodie de chanson, moi, je le trouve vraiment sympa. Mais c'est aussi, du coup, visuellement, en fait, il y a quelques plans sur... Alors, je pense que d'ailleurs, c'est le personnage de Lucy, hein. Un corps féminin qui se tourne, est en espèce de lévitation, etc., avec des animations comme si c'était sous l'eau. C'est complètement un hommage à Ghost in the Shell, je vois pas comment ça pourrait en être autrement. Et comme je suis une petite biatch à Ghost in the Shell, et forcément ça m'a caressé dans le sens du poil. Et vu que, contrairement à l'animé Ghost in the Shell 95, qui reste ultra pertinent, mais qui aussi forcément a un petit peu vieilli graphiquement parlant, là, bah, c'est au standard moderne, et du coup, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très joli, très bien fait.
Et encore, les films Ghost in the Shell, je trouve qu'ils n'ont pas, si, pas tant vieilli que ça. Mais bon. Ça, c'est une faute de plus,
non,
c'est mon
mais
avis,
c'est
hein,
plus
ouais.
que.
Je parle visuellement
c'est pas
parlant.
De la, c'est pas de la HD avec la
non,
finesse
non, non, non.
de trait qu'on peut avoir aujourd'hui. Quoi.
Oui, bah, on va renouveler ton appel hein, pour du
Ghost
in the Shell en 4K.
Ouais.
Comme on
mais...
a eu pour Akira et qui
ouais,
a fait
mais
bien
ça,
plaisir.
C'est, la, ouais. c'est bien la preuve que la justice n'existe pas en ce monde. du coup, si tu devais nous parler un petit peu des petits bémols.
Des petits bémols, et ben globalement, si artistiquement c'est bien, le problème c'est sur ce que ça raconte de manière générale. Le scénario est assez peu intéressant hein, parce que finalement, au début, on a une bête histoire de vengeance. Une partie peut-être un peu plus intéressante qui est, disons, l'intégration de David dans ce groupe-là.
Oui,
ce
des
groupe-là.
Parties plus sociétales.
Ouais, voilà, qui est déjà un peu intéressante, ce côté groupe de marginaux qui peut être intéressante, mais il y a une sorte de twist vers le milieu qui fait que, qui personnellement, en fait, je ne veux pas le raconter, mais ça m'a fait perdre vraiment toute empathie pour le personnage principal. Et tout ce qui lui arrive après, même de pas bien, globalement, j'étais pas...
Oui, c'est vers le milieu quand il décide d'arrêter Windows et de passer à Linux, c'est ça ?
Oui, alors j'ai rien contre les Linuxiens, mais par contre, quand même, macOS, s'il vous plaît. Bon.
J'y crois pas.
Non, plus sérieusement, voilà, il y a, disons qu'un truc où il y a une décision, globalement, du personnage principal qui me paraît tellement illogique que j'arrive pas à avoir... à m'inquiéter ou avoir un quelconque un peu pas mal d'empathie pour ce qui arrive au personnage après, je me dis que ça n'est que la résultante d'une décision illogique. Par ailleurs, il y a aussi le fait que c'est un animé Trigger. Toi et moi, on a beaucoup vu de Trigger,
ouais.
On aime beaucoup Trigger,
ouais.
Et clairement, ça bouge bien. Hein, c'est pas le problème. Ça bouge même très très bien. Il y a des scènes de combat qui sont bien yummy comme on aime, mais par contre c'est quand même un peu à l'économie en termes de créativité, notamment au niveau des chara-design, parce que écoute, c'est encore une fois un Kamina qui rencontre un Gamagori.
C'est vrai que
et c'est quelque chose qu'on a déjà vu,
c'est pas pour faire la blague au micro, on les appelle vraiment comme ça entre nous hein.
ouais vraiment, donc c'est ça, c'est des designs qu'on a déjà vu, et même si c'est probablement une demande
peut-être.
De base, c'est quelque chose où on se dit c'est un petit peu dommage quand on a déjà vu pas mal de Trigger et qu'on aimerait bien les voir explorer un petit peu d'autres choses, sachant qu'on sait à quel point le studio peut avoir une créativité débordante.
Ouais.
Et dernier point, c'est tu disais que t'aimes beaucoup l'univers cyberpunk, et c'est d'accord avec toi, c'est quelque chose qui me plaît aussi, mais par contre je trouve que là il est, en tout cas dans le cadre de l'histoire racontée ici, il est vraiment sous-exploité. On a les gentils edge runners, les méchants de corpo, bon, voilà, assez du grand classique. Quelques références à droite à gauche, mais vraiment très peu de fond et très peu de pistes de réflexion.
Oui, là pour le coup, on est justement, pour revenir sur une comparaison avec un Ghost in the Shell de 95, on est à des années-lumière du potentiel que ça peut te donner à réfléchir, quoi.
Ouais, ouais. Vraiment. Hein. Toi, il y a des choses qui t'ont déplu aussi ?
Ouais, bah, je vais revenir un petit peu sur la partie scénario. J'ai les mêmes bémols que toi à exprimer sur l'écriture. Par contre, je me dis que peut-être que... Alors, pour une fois, hein, si on pense à d'autres animés récents que Trigger a sorti, auxquels on faisait globalement le même reproche, peut-être que pour une fois, c'est pas leur faute. Dans le sens où...
Si le scénario est moyen, c'est ça.
C'est ça. Ou clairement, en fait, là, c'est clairement CD Projekt qui est revendiqué à l'écriture et pas Trigger. Donc ça ressemble plus à une commande, en fait, d'un animé sur la base d'une histoire qui a déjà été écrite. Et du coup, bah, c'est un... Bon, ça enlève pas ce bémol, hein, évidemment. Mais disons que je me dis que peut-être que cette fois, le reproche, je vais le tourner du coup vers CD Projekt, à leur dire, bah écoutez, vous êtes venus toquer à la porte de Trigger, vous avez vu ce qu'ils peuvent faire en créativité, vous avez vu aussi ce qu'ils peuvent ne pas arriver à proposer quand ils mettent pas assez d'efforts sur l'écriture, et vous-même, vous leur avez fourni un scénario qui est un petit peu bateau, quoi. Vous auriez peut-être pu faire mieux, surtout qu'il s'agissait d'enrichir un univers qui existe déjà, bon, bien sûr, par le jeu de plateau, enfin le jeu de rôle papier d'origine, et que vous avez adapté en jeu vidéo, et maintenant vous allez lorgner du côté de l'animation, et bah, finalement pour raconter un truc qui est pas sensationnel, quoi.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi ce côté commande où peut-être, entre guillemets, c'est peut-être bizarre à dire, mais ils ont peut-être un peu trop respecté les triggers en disant faites du trigger pur jus, pas du nouveau trigger, mais du trigger qu'on connaît déjà.
Ouais.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Prenez Kamina et Gamera Gori et mettez-les dans un univers cyberpunk.
Ouais, il y a un peu de ça. Enfin, alors, ce qui est étrange, c'est que d'un point de vue, pour le coup, direction artistique, il y a des vrais partis pris
Oui.
qui sont vraiment, pour le coup, originaux et qui sont bien retranscrits. Mais dans la partie chara-design, c'est vrai que c'est voilà, c'est un peu ça
Ouais,
paraît
ouais.
chauffé.
Ça rappelle un peu Promare aussi, hein, qui
C'est
avait
vrai que c'était
en
ça.
termes de DA des trucs vraiment
Ma
très
boule.
marqués
Ma boule.
et inhabituels. Avec un Gamagori et un Kamina dedans, quoi. Ça devient un peu une constante. Hein.
Ouais, voilà.
Ben autre truc, du coup, et là, pareil, c'est difficile de l'aborder uniquement du point de vue de l'animé sans aborder aussi un petit peu le jeu, parce que c'était déjà un reproche qu'on pouvait lui faire. On vous ramène à l'intro de Hal et Ed. Hein. On a l'impression qu'ils se sont dit, bon, ok, nous aussi, on a fait du jeu, on va faire de l'animation maintenant, on est trop adultes et tout, donc du coup, il va y avoir du sexe et du sang. Sauf que ben, vous êtes gentils, mais. On sait déjà très bien faire dans l'animation, ça. Et c'est pas juste en mélangeant les deux que ça devient un truc adulte, quoi. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est. On met des godemichés partout derrière la vitrine. Et puis ça y est, c'est adulte, quoi.
Voilà. Bah, en plus, mettre du sexe et du sang, c'est la définition de je suis un jeu adulte ou un contenu adulte du temps de Duck Nukem 3D.
Ouais. Ouais.
Qui était en vrai un jeu pour ados.
Et surtout qu'il y a un jeu qui a mis 15 ans à sortir.
Ah non, je parle du 3D, hein, donc
Ah,
celui qui est sorti en 97.
Oui, pardon, pas le Forever.
Non, oula. Oulala. Je sais qu'il y a beaucoup qui émettent des réserves sur. sur Cyberpunk 2077, mais je comparerais pas quand même avec Forever. Peut-être pas, je suis pas salaud à ce point-là.
Quoi
quand
en
même.
termes de lancement
Ah oui, ah, il y a
Non,
moyen.
ouais. Bah, effectivement, c'est-à-dire qu'on se dit, mais les gars, en fait, vous voulez faire un truc adulte? Bah, regardez le Ghost in the Shell de 95
Voilà.
qui te fait réfléchir à presque t'en faire fondre le cerveau et surtout qui, dans toutes ces thématiques, a eu la force d'être quasiment dépassé sur aucun point encore aujourd'hui, quoi. C'est encore tout à fait pertinent. Et ça te fait réfléchir. Et il n'y a pas besoin de cul si ce n'est que la meuf, c'est un cyborg et au début, elle enlève sa veste avant de se jeter dans le vide et tu te dis,
Mais
ah, j'ai eu un cyborg à poil, quoi.
ou combien même tu peux en mettre du cul, c'est juste que t'as pas besoin de gratuité.
Ouais,
C'est-à-dire
il
qu'il
faut pas
faut
que ce soit juste le cul pour le cul, quoi.
c'est ça, faut que c'est un début de
Oui,
sens,
enfin,
ce qui
du
est
coup,
pas le cas ici en tout
le
cas.
cul pour le phallique, encore une fois. Hein, parce
Oui, il y a
que
que ça.
c'est pas le cul pour le cul, c'est plutôt
Ah
le
non.
phallique pour le phallique.
On a dit des bits, il y a que
Voilà,
ça, le sexe c'est que des
c'est
bits.
ça. Bon, en même temps, en informatique, les bits, c'est très
Ah si, il y a
important.
aussi les pubs dans les ascenseurs sur la meuf à trois bouches aussi, très important.
Oui. Ou la meuf cow-boy,
Ouais.
jambes écartées,
Ouais,
enfin bon,
parfait.
comme dans
Parfait,
le jeu,
parfait.
quoi.
Parfait.
Donc ouais, voilà, je pense qu'il y aurait moyen d'enlever un poil de ça, on n'est pas obligé de l'effacer, hein, mais de rajouter beaucoup plus de par la narration, en fait. Des sujets adultes, tout
C'est ça.
simplement,
En fait,
des réflexions, quoi.
en fait, même pas genre n'enlèverais, je dirais juste faites en sorte que ça ait un sens, tout simplement. Voilà. Et mais c'est globalement la problématique de tout l'animé, c'est que bah, c'est joli, ça bouge bien, c'est original d'un point de vue DA, mais ça raconte pas grand-chose.
Ouais, c'est ça le
Voilà.
problème. Voilà, bah écoute, s'il fallait conclure, moi je dirais que, grosso modo, quand même, le visionnage est plutôt agréable de cet animé, on va quand même pas se mentir, c'était sympa à regarder et je suis passé d'un épisode à l'autre assez volontiers. Mais bon, bah c'est pas inoubliable. Alors, on peut pas demander à chaque animé qui sort d'être inoubliable, sinon on perd la notion en fait d'inoubliable. Tout simplement, toutes les œuvres qui sortent ne peuvent pas être des chefs-d'œuvre qui vont redéfinir les standards de nos exigences. Mais disons que. Voilà, l'essentiel de l'histoire s'oublie vraiment très très vite après l'avoir regardé. Et en termes de souvenirs, bah voilà, on se souvient que ça bougeait beaucoup, que c'était joli, mais on était en droit d'espérer plus en fait en voyant ces deux studios du coup travailler ensemble. Et par contre, ce que je trouve intéressant du coup, c'est de faire ce constat sur l'industrie aujourd'hui, c'est que c'est une incursion de plus en fait depuis le monde du jeu vidéo vers le monde de l'animation. On a déjà eu Arcane qui a été adapté à partir de l'univers de League of Legends. On a eu plus récemment Call of the Arbiter, bon, peut-être moins connu, mais qui se base sur l'univers de Red Shadow Legends.
Vous connaissez Red Shadow Legends.
Voilà. Et du coup, sur lequel, pour le coup, j'ai pu bosser sur quelques chantiers, même si c'était surtout des collègues à moi qui étaient à la barre. Et donc, bah là, cette fois-ci, c'est CD Projekt Red qui demande, qui vient voir Trigger pour adapter en animé au style japonais leur jeu Cyberpunk 2077. Donc peut-être que ce n'est finalement que le début d'une longue liste. On sait que le cross-média, ça fait déjà longtemps que ça a commencé à en parler, mais au final, ça ne s'est pas tant concrétisé que ça.
Disons que le cross-média, c'est, en tout cas, c'est beaucoup le cas au Japon, c'est moins le cas en Occident, mais surtout quand ça vient des studios de jeux vidéo. C'est-à-dire
de, oui, oui, c'est du cross, de ça dont voilà, je voulais parler, quoi. Depuis le jeu vidéo vers l'animation.
Voilà, du cross-média qui vient de l'industrie du film, l'industrie de la série, ça existe déjà pas
oui,
mal.
Oui, oui.
Par contre, qui viennent directement de franchises et qui viennent de studios de jeux vidéo, c'est moins le cas en Occident. Voilà.
Ouais. Voilà.
Moi, ma petite conclusion, je suis 100% d'accord avec toi, c'est juste par rapport au fait que c'est, faut pas oublier que c'est une série qui a été très très bien reçue d'un point de vue critique et public en tout cas.
Oui oui, là le succès commercial est d'ores et déjà entériné.
Oui voilà, et que si ça peut permettre à des gens de mieux connaître Trigger et d'aller justement un peu voir du côté d'autres choses qu'ils ont faites, que ça soit du Kill la Kill ou même que ce soit Little Witch Academia dans un style diamétralement opposé,
oui,
mais
ouais,
toujours mais avec des univers qui ont été créés originellement par Trigger.
Ouais.
C'est toujours des choses qui sont intéressantes et,
oui, de servir de porte d'entrée, quoi.
C'est ça, ouais, exactement. Et voilà, en espérant que Trigger puisse à nouveau faire des animés originaux bientôt.
Ouais.
Voilà, donc ça signe la fin de cet épisode de Chambara, des Samouraïs et la soubrette. On vous demande de vous rester connectés pour nos prochains épisodes. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À bientôt.
Cyber bisous.